Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
h 10. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous comme chaque dimanche sur RMC. RMC qui, vous le savez, chaque week-end vous propose les meilleurs experts entre 6h et 10h. Les animaux et l'automobile le dimanche, et hier c'était le jardin et la maison, vous savez, avec Patrick Mulan et Christian Pessé. Tout à l'heure dans l'automobile avec Jean-Luc, on évoquera, eh bien, on va dire la révision du véhicule avant de partir en vacances, vidange et pneus, c'est le moment de s'en préoccuper. L'essai de la semaine, ça sera la Ford S-Max. Peut-on rouler avec ses pneus hiver en été? Et puis, en deuxième partie de ce rendez-vous auto, on évoquera ces fameuses pastilles de couleur qui seront bientôt en vigueur concernant la pollution. On en parlera avec un spécialiste. Mais dans l'immédiat, vous le savez, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, on va tout à l'heure parler de biomimétisme, on évoquera aussi un refuge pour tortues près de Toulouse, on découvrira aussi cette histoire incroyable, un couple condamné en appel pour des grenouilles trop bruyantes dans leur jardin.
Dans leur mare, oui.
Ça sera en toute fin d'émission, et puis notre vidéo LOLCAT, on vous a sélectionné une petite vidéo, mais tellement drôle, d'un chien dans une piscine. Voilà, on va vous raconter ça tout à l'heure. Mais pour débuter, Laetitia, on poursuit notre saga Euro.
Voilà, et on part en Irlande. Enfin, on part pas en Irlande, on part en France, mais avec des chevaux irlandais, des poneys, les chevaux de Connemara. C'est des chevaux, ben voilà, c'est une race qui est originaire d'Irlande. Et nous sommes avec Christine Marès, qui est éleveuse de chevaux Connemara depuis 42 ans.
Oula, ah oui.
Christine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, bonjour. Vous élevez des poneys de race Connemara. On imagine les origines, hein, bien sûr, les plaines du Connemara en Irlande. Oui. Et il faut savoir quand même que la France est, après l'Irlande, le pays qui possède le plus grand nombre de ces poneys. Alors, racontez-nous d'abord l'histoire de ces chevaux.
Alors, comme son nom l'indique, c'est une race qui vient de l'extrême ouest de l'Irlande, la région du Connemara, qui est une région extrêmement pauvre, extrêmement déshéritée sur le plan des conditions de vie. Il faut revenir très très loin en arrière. Et donc, les poneys qui se sont construits, cette race qui s'est construite au fil des millénaires et des siècles,
oui,
a fallu développer des capacités extraordinaires pour s'adapter à ce biotope très, très, très hostile. Alors aujourd'hui, c'est très touristique, il y a des routes, c'est superbe.
Ah oui.
C'est une très, 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 très belle région. Mais par contre, pour y survivre, il a fallu que cette race développe des capacités fabuleuses d'adaptation à ce climat, à ce terrain. C'est beaucoup de tourbières, beaucoup de vent, beaucoup de... c'est pas les conditions idéales, c'est pas la Normandie, c'est pas la Mayenne pour élever des chevaux. Et la race s'est faite au fil des siècles.
Oui.
Et son histoire contemporaine commence en 1923 avec la création du livre généalogique de l'association irlandaise des éleveurs de Connemara. Et voilà.
Alors, est-ce que c'est un voyage en Irlande, dans le Connemara, qui vous a donné envie d'élever ces chevaux, enfin ces poneys, parce que ce sont des poneys, hein, c'est ça?
Ce sont des poneys. Et poneys, ça veut dire petit cheval. Et non, c'est mon mari qui a commencé en 1972 à faire ses premiers voyages en Irlande. Mon mari avait une grande famille, 5 enfants. Il était cavalier, fils d'éleveur, et il cherchait la monture idéale qui se rapprochait le plus des petits chevaux qu'il avait connus en Algérie, puisqu'il est né en Algérie, les pieds noirs. Et il a fait un peu le tour de toutes les races de poneys. Le poney n'était pas très courant en France, hein. C'était les îles britanniques qui étaient vraiment les spécialistes. Il est allé en Autriche aussi pour voir les petits chevaux à Flinger. Il est allé un peu partout. Et le dernier voyage qu'il a fait, c'est l'Irlande. Et là, ça a été un coup de foudre absolu. pour cette race de poney. Et c'est là qu'a commencé l'histoire de Jean-François avec le Connemara. Oui.
Alors on dit que les Irlandais, pour les Irlandais, le cheval c'est sacré, c'est vraiment un animal sacré chez eux.
Oui, enfin la différence, les Irlandais comme les Anglais, nous on le voit année après année, on va souvent en Irlande 3-4 fois à l'année, c'est des peuples cavaliers, c'est des gens qui ont ça dans la peau, les enfants montent, on n'a pas du tout la même culture d'équitation que sur le continent, et nous allons souvent en Irlande, nous avons des amis qui ont des enfants, et quand on les voit évoluer, il y a une spontanéité. Les gens ont, nos amis par exemple en Irlande, je pense à eux à l'instant, ils nous ont acheté des poulinières, donc on va souvent les voir. Ils ont deux petites filles qui montent chez elles, elles ont des poneys chez elles, et la formule Poney Club est pas du tout comme en France. Et les gens se retrouvent une ou deux fois par semaine, ils amènent leur poney dans un lieu, et là, il y a le professeur ou le cavalier pro qui leur donne des cours. Et ça peut être un autre lieu la fois d'après.
Ah, c'est un peu comme si on amenait son chien en éducation canine. Là, c'est on amène son cheval pour un cours d'équitation.
Voilà.
Mais
oui.
Pouvez-vous nous décrire, pour ceux qui ne connaissent pas ce poney, quelles sont ses particularités? Pourquoi vous avez eu, votre mari a eu le coup de cœur pour ses chevaux?
Alors, il a eu le coup de cœur, et moi, quand je l'ai rencontré, j'ai eu deux coups de cœur, pour lui et pour la race qu'il avait choisie. Ah ben, c'est un poney qui est beau, qui est bien proportionné, qui a une esthétique qui fait que c'est pour nous la plus belle race de poney. Alors je sais que mes amis des poneys français de Selvaux vont dire non, mais si c'est vraiment une race esthétiquement, c'est une race aussi qui a un mental phénoménal, extraordinaire.
Il paraît qu'ils sont très courageux, un petit peu comme les Irlandais.
Très courageux, mais ils sont très courageux parce qu'aller vivre dans cette région, c'est tout simplement extraordinaire. Ils sont courageux, ils sont gentils, ils sont extrêmement polyvalents. Et c'est Jean-François qui avait été président de l'association pendant de nombreuses années en France, 19 ans, avait trouvé cette phrase, c'est le petit cheval de toute la famille. C'est un cheval qui peut évoluer avec des enfants même très jeunes,
oui,
des adultes, des adolescents. Il emmène le cavalier ou la cavalière là où il a envie d'aller, que ça soit en sport, que ça soit en loisir, dans toutes les disciplines. On a alors je vais faire un peu de pub perso, mais on a une poneyse qui a été en trek. Le trek, c'est une discipline technique de randonnée équestre de compétition qui a été au championnat du monde junior Tosca de l'Aune avec Bérangère Naudet. Donc il évolue, on a des Connemara qui évoluent, bien sûr, la carte de visite du Connemara c'est le sport, c'est le CSO, c'est le concours complet avec de très très bons chevaux, avec le dressage également, c'est moins sa discipline de prédilection, mais il y en a. Non, c'est vraiment une race très polyvalente, très versatile, très...
Christine, en tout cas, vous en parlez avec amour.
Alors,
c'est très
agréable.
Merci beaucoup, en tout cas.
On dirait un Irlandais qui parle de ses chevaux.
Ouais.
Mais c'est un peu ça, Christine.
Merci.
Merci beaucoup, Christine. Merci de nous avoir fait découvrir ce petit poney de Connemara. Et vous êtes de l'élevage Connemara de l'Aune. Et nous mettrons, bien sûr, un lien sur la page Facebook.
Voilà, la prochaine fois, on écoutera cette interview avec une chanson de Michel Sardou bien connue, Laetitia. Bravo. Comme ça, moi. Mais là, c'est pas les poneys du Connemara, c'est les lacs du Connemara. Alors, je ne comprends pas, notre productrice se bouche les oreilles.
Ah, pourtant.
Pourtant, quand même.
C'est un monument de la chanson française, quand même.
Des nuages noirs. Allez, Laetitia, qui viennent du Nord.
Très mauvaise en karaoké.
Attends, c'est quand même un truc énorme, ça. Ah, Michel Sardou. Bon, vous savez quoi, on va revenir dans un instant, on va se calmer, parce que là, je sens qu'il y a quand même une espèce de puissance qui monte. Et on va évoquer le biomimétisme, Laetitia. Hein, pas à Connemara, ici.
Alors, c'est quoi le biomimétisme?
Ça, on en parle dans un instant.
Exactement.
Des lacs qu'on voit nager. Certains soirs d'été. Non, Jérôme, coupe, parce que là, autrement, on va tout chanter. C'est pas possible.
Le week-end des experts sur RMC. Vos animaux. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, Laetitia Barlerin à mes côtés. Tout à l'heure, nous évoquerons un refuge pour tortues près de Toulouse. Mais auparavant, Laetitia, un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, surtout dans le domaine des animaux, c'est le biomimétisme.
Eh oui, puisque le 1er et le 2 juillet à Senlis a lieu le Biomime Expo. Alors c'est quoi ? Bah, c'est le salon des acteurs du biomimétisme. Alors qu'est-ce que c'est le biomimétisme ? Et on va le savoir justement avec Kalina Raskin, qui est docteur en biologie et chargée du développement scientifique du CIBOS, BIOS, qui est le centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. Kalina, bonjour.
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 Bienvenue. Alors, expliquez-nous, pour commencer, donc, ce qu'est le biomimétisme.
Alors, le biomimétisme, ça vient de bio, la vie, et mimétisme, mimé. Donc, ça veut dire imiter, finalement, l'incroyable capacité des êtres vivants à s'adapter pour innover nous-mêmes, pour résoudre nos propres défis.
C'est-à-dire que vous vous inspirez de la nature et des animaux.
On s'inspire de la nature et des animaux, de la cellule jusqu'au fonctionnement des écosystèmes. Et on regarde la façon dont, pendant 4 milliards d'années, ces différentes espèces, elles ont évolué. Donc, elles ont testé par essai et erreur plein de solutions différentes pour répondre à des enjeux comme accéder à l'énergie, se déplacer ou encore faire une chimie avec des températures et des pressions tout à fait modérées par rapport à nos processus industriels conventionnels. Donc, ce sont des modèles d'innovation et d'innovation en plus durable.
C'est-à-dire que vous considérez que la nature a tout inventé ?
La nature, elle a déjà inventé beaucoup, beaucoup de choses, hein, parce que elle a dû résoudre exactement des problématiques que nous, on se pose, hein, gérer l'information, produire des matériaux innovants, explorer l'énergie solaire. Donc tout ça, ce sont des choses que la nature a déjà faites et qu'on essaye de reproduire aujourd'hui par les voies techniques et technologiques.
Alors, donnez-nous des exemples pratiques de choses de la vie courante, on va dire, qui ont été inspirées par les animaux. Alors moi, je sais qu'il y a eu beaucoup d'études sur les araignées, mes amis les araignées, surtout sur la soie, hein, qui est constituée de leur toile
ouais,
d'araignée,
sûr,
oui, tout simplement,
ouais.
Qui ont été beaucoup étudiées par les chercheurs.
Oui, alors la soie d'araignée, c'est effectivement un matériau absolument incroyable. Et pourtant, c'est produit donc par une araignée dans des conditions très douces, hein, de manufacture. Et ce fil d'araignée, si vous le à échelle égale, hein, si vous lui donniez la taille d'un fil d'acier de quelques centimètres, on va dire, de diamètre, eh bien, il serait en capacité d'arrêter un Boeing en plein vol. Donc, c'est un matériau chimique extrêmement performant et efficace. Et il y a aujourd'hui plein d'équipes dans le monde qui essaient de reproduire en fait ces caractéristiques. Et il commence à y avoir, au bout de 15 ans de recherche, enfin, les premiers fils de soie artificiels qui sont en train d'être produits et proposés sur le marché.
Et qui ont donc une résistance hors du commun, c'est ça, hein ?
Qui ont une résistance hors du commun, équivalente et supérieure à celle du Kevlar, par exemple.
C'est fou.
Oui, je crois qu'il y a des gilets pare-balles qui ont été faits en simili soie toile d'araignée.
Oui.
Oui, effectivement, parce que c'est les propriétés qu'on attend d'un gilet pare-balles, c'est effectivement d'absorber énormément d'énergie et d'avoir finalement un comportement assez élastique. Et c'est exactement ce que la soie d'araignée permet de reproduire. Donc effectivement, on essaie d'en faire aujourd'hui des gilets pare-balles, mais des textiles de façon plus générale, qui sont des textiles techniques à très haute performance mécanique.
Je comprends mieux maintenant la vie de Spider-Man.
C'est sûr. Alors il y a aussi l'escargot, la bave d'escargot aussi, qui ont beaucoup intrigué et inspiré les chercheurs.
Alors, vous savez bien que aujourd'hui, on essaye de développer des cols qui sont des cols non toxiques, hein, sans produits chimiques dangereux pour la santé. Et la vie, elle regorge de cols absolument extraordinaires, dont effectivement la bave d'escargot, qui inspire de plus en plus de chercheurs pour des usages médicaux. Mais il y a aussi un petit ver marin qui se crée un petit tube de sable autour de lui, et ce petit tube de sable, il est capable de coller les grains avec sa salive. Et il y a aujourd'hui une entreprise qui est implantée en France qui développe des colles chirurgicales inspirées de la composition chimique de la salive de ce ver marin. Et puis ensuite, vous avez d'autres colles absolument remarquables. Il y en a une que vous connaissez tous, inspirée du vivant. C'est le velcro.
Le velcro.
Le velcro, en fait, est inspiré de la stratégie de la fleur de bardane. C'est une petite fleur avec des espèces de petits piquants en forme de crochet. Et donc, c'est la stratégie qu'a adoptée la plante pour disséminer les graines en faisant en sorte qu'elles s'accrochent aux poils des animaux. C'est exactement le même principe que ces petites boules qui s'accrochent à vos chaussettes en été. Mmh. Et donc, voilà, c'est en s'inspirant de cette stratégie-là que Georges de Mestral a créé le velcro. Et ça, le velcro, c'est quand même une innovation bio-inspirée largement répandue dans le monde.
Alors, je sais aussi que le secteur des transports s'intéresse beaucoup aux animaux et surtout aux capacités de vol des oiseaux.
Oui, alors vous avez beaucoup d'exemples d'imitation de l'aérodynamisme des oiseaux, effectivement, pour optimiser le vol de nos propres objets, donc de nos avions, par exemple. Alors l'exemple grand classique et que beaucoup d'entre nous peut observer en prenant l'avion, ce sont ces courbures en fait qu'on a au bout des ailes aujourd'hui, ce qu'on appelle les winglets, qui imitent en fait la courbure de ces très longues plumes, les rémiges qu'ont les aigles au bout de leurs ailes et qui en se recourbant leur permet d'économiser énormément d'énergie pendant le vol. Et donc ça, déjà, ça permet des économies relativement significatives en ajoutant tout simplement une courbure au bout des ailes.
Ça veut dire que les chercheurs ont observé les oiseaux, ont observé leur vol et ont appliqué, en fin de compte, cette fameuse courbure au niveau des plumes sur les avions, sur nos avions.
Exactement, et on s'est aperçu que ça permettait d'économiser beaucoup d'énergie. Il y a un autre exemple inspiré des oiseaux, mais cette fois appliqué au train, qui est très célèbre, hein, c'est le TGV japonais, le Shinkansen. Ce TGV, il est obligé de passer à grande vitesse dans des tunnels, hein, parce que la région est montagneuse, et ça crée une surpression, et ça crée des vibrations et un choc sonore. Et donc, il se trouve que par chance, dans l'équipe des ingénieurs qui ont essayé d'optimiser le profil du train, il y avait un ornithologue, donc un spécialiste des oiseaux, et qui s'est dit, finalement, le martin pêcheur, il est capable de passer de l'air à l'eau à très grande vitesse, avec très peu de turbulence, alors pourquoi on n'essaierait pas d'imiter, finalement, le bec de ce martin pêcheur, pour pouvoir profiler le TGV du train Shinkansen. C'est ce qu'ils ont fait, et donc c'est un très grand exemple très célèbre du biomimétisme, puisque voilà, Japan Rail, donc la compagnie des trains japonais, a fait du biomimétisme pour profiler l'un de ses trains.
Ça veut dire que les trains japonais, le TGV japonais a le bec du martin pêcheur, c'est ça?
Exactement.
D'ailleurs, il va à une vitesse incroyable, je crois, ce train-là. Il bat les records du TGV, de notre TGV à nous.
Grâce aux animaux.
Merci beaucoup, Kalina. C'est étonnant, tous ces rapprochements entre l'humain et l'animal. Merci beaucoup.
Merci. Bah, comme quoi, la nature a tout inventé et que nous inspirons des animaux et de la nature.
C'est bien.
Et si vous voulez en savoir plus, si même ça vous intéresse, je parle surtout aux jeunes qui veulent peut-être aller dans ce secteur, il y a le salon des acteurs du biomimétisme qui se tient à Senlis le 1er et 2 juillet.
Merci beaucoup. On revient dans un instant. Laetitia, après la météo et les infos. Ça sera la suite de notre rendez-vous animaux avec un refuge pour tortues près de Toulouse et une histoire étonnante, un couple qui a été condamné en appel pour des grenouilles trop bruyantes dans leur jardin. Eh oui, à tout de suite. La tia-tia, il est temps de retrouver une petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Agathe. Mon chien, Laetitia, qui s'appelle Hector,
oui.
Refuse de manger ses croquettes de régime. Il a 8 ans. C'est un labrador qui fait 40 kilos.
Ah oui.
Il doit donc maigrir pour sa santé.
Un petit peu,
que faire?
Ah oui. Eh bien oui, il est très important qu'il maigrisse. Alors d'abord, ne vous inquiétez pas, il ne se laissera pas mourir de faim. Vraiment, les chiens, quand ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous regardent, et ils regardent la gamelle. Ils vous regardent en disant, t'as rien d'autre.
T'as rien d'autre? T'es sûr? Il n'y a rien dans le frigo?
T'es sûr? Et comme ils vous ont à l'usure, eh ben, ils ne mangent pas, parce qu'ils savent que s'ils insistent un peu, ils auront autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces croquettes sont quand même très importantes. Elles sont hypocaloriques, c'est-à-dire qu'il y a moins de calories. Il y a beaucoup plus de protéines, hein. C'est un peu un régime hyper protéiné, un petit peu comme nous, pour maigrir. Et elles sont riches en fibres. Mais c'est vrai qu'elles sont peut-être moins appétantes que les croquettes qu'ils mangeaient avant, goulûment, et qui l'ont fait grossir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire une transition progressive entre les anciennes croquettes et les nouvelles croquettes, c'est-à-dire mettre un petit peu de nouvelles croquettes dans les anciennes croquettes et puis augmenter la dose pour arriver à 100% de nouvelles croquettes. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui proposer sa gamelle. Vous allez partir. C'est-à-dire, vous n'allez pas rester à regarder s'il mange ou pas, parce que là, il va se dire, c'est bon, je l'ai dans la poche. et elle va me donner autre chose. Et vous allez, au bout de 20 minutes, s'il n'a pas mangé ses croquettes, vous lui enlevez sa gamelle et vous lui reproposez la gamelle le soir. Et je peux vous dire que, comme un labrador a souvent faim, eh ben, avoir, être à jeun jusqu'au soir, eh ben, le soir, ces fameuses croquettes de régime.
Il va se régaler.
Il va les manger. Et il va y prendre goût. Et il va se dire, ben, si je mange pas au bout de 20 minutes, il y a le service qui passe et j'ai plus de croquettes. Donc, ne vous inquiétez pas.
RMC jusqu'à 8 heures, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le retour du week-end des experts et les animaux jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau comme chaque dimanche matin et toutes vos questions auto. Laetitia, tout à l'heure, notre vidéo LOLCAT, on a trouvé une vidéo d'un... Je crois que c'est un golden.
Un labrador.
C'est un labrador qui, oui. qui est dans une piscine et... Voilà, c'est très drôle. On va vous raconter ça tout à l'heure. On va aussi, eh bien, écouter cette histoire incroyable de grenouilles qui embêtaient des voisins. Sauf que les grenouilles ne se sont pas laissées faire, visiblement. Hein. Et dans l'immédiat, on va parler de quoi, Laetitia ?
Eh ben, on va parler d'un refuge. D'un refuge pour tortues.
Ah !
Eh oui, qui ouvre ses portes ce week-end à Bessières, près de Toulouse, pour des portes ouvertes. Et nous sommes avec Jérôme Maran, qui est responsable de ce refuge des tortues. Jérôme, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Alors, un refuge pour tortues, c'est vous qui êtes à l'initiative de son ouverture il y a plus d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir ouvert un refuge pour tortues ?
Mais d'abord, c'est vrai que c'est dû à mon histoire. Je suis passionné d'élevage des tortues depuis que je suis tout petit. Donc j'avais cette vocation qui me poussait à ouvrir et à être utile, surtout à la protection et à la conservation des tortues. Et ensuite, c'était dû effectivement à une nécessité. Chaque année, depuis des années, de nombreuses tortues sont abandonnées, relâchées dans nos cours d'eau. Et ce sont des espèces d'origine nord-américaine, essentiellement les fameuses tortues de Floride.
Ah, et ces fameuses petites...
Il fallait s'en occuper.
C'est-à-dire que ce sont, dans les années 70, ces tortues étaient vendues, elles étaient aussi grandes qu'une pièce de 5 francs à l'époque, hein, on va dire. Elles étaient toutes petites et tous les enfants avaient des tortues à la maison. Le problème, c'est que ça grandit. C'était des bébés tortues qui ont beaucoup grandi. Et du coup, les gens se sont débarrassés de ces tortues, c'est ça ?
Absolument. C'est-à-dire qu'elles étaient vendues la plupart du temps comme des tortues naines, même, avec le petit aquarium, le petit palmier qui faisait office d'habitat pour cette espèce, ce qui ne collait pas à la réalité, puisque à l'espace de 3-4 ans, si les animaux étaient bien nourris, bien alimentés, on arrivait à avoir des animaux de plus de 15-20 cm, donc il fallait changer l'aquarium, c'était trop cher, et les gens, la seule solution, c'était de s'en débarrasser.
Donc ils les ont mis dans les rivières,
c'est ça ? Voilà, ils les relâchaient dans tous les cours d'eau, ce qui pose un réel problème écologique par rapport notamment aux espèces autochtones. Il faut savoir qu'en France, nous avons deux espèces de tortues d'eau, la cistude d'Europe et les mille lépreuses.
Qui ont été concurrencées par ces tortues de Floride.
Absolument, et puis récemment des articles, des études scientifiques menées par des chercheurs étrangers ont clairement démontré que ces animaux pouvaient transmettre des maladies à nos espèces locales et les mettre en danger.
Alors, vous avez ouvert ce refuge d'abord pour ces tortues de Floride, mais vous avez aussi des tortues de terre.
Il y a effectivement pas uniquement des tortues de Floride, mais on accueille également des tortues terrestres, notamment des tortues d'Hermann, la seule espèce de tortue de terre que l'on rencontre à l'état sauvage en France, dans le sud-est de la France, dans le Massif des Maures. Et donc chaque année...
Et qu'est-ce qu'elles font à Toulouse alors ?
Je pense qu'elles apprécient la ville rose, mais ce sont des particuliers qui ne pouvant plus s'en occuper, des personnes âgées ou des gens qui déménagent et qui ont ces animaux depuis de nombreuses années, veulent nous les confier pour qu'elles puissent vivre encore le plus longtemps possible.
Oui, parce que alors, le problème de votre refuge, c'est quand même que vous avez des pensionnaires qui vont vivre une centaine d'années. Donc votre refuge est pérenne, là.
Ce sont des espèces longévives et je suis condamné, et nous sommes condamnés, mon équipe et moi, à vivre très 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 longtemps, soit, évidemment, c'est ce que l'on va faire, à pérenniser l'activité, à la transmettre quand il le faudra.
Alors, à part les tortues de Floride, les tortues d'Hermann ou même de Grec, peut-être que vous avez...
Oui, absolument, tout à fait.
Vous avez quoi comme autre tortue abandonnée ?
Il y a malheureusement de plus en plus des tortues que l'on appelle la chélydre serpentine qui s'apparente à la tortue alligator, qui sont des espèces nord-américaines également, qui font 50-60 kilos.
60 kilos?
Oui, à l'âge adulte. Des grosses tortues d'eau très voraces qui dans la nature peuvent manger des serpents, d'autres tortues, toute la petite faune, les oiseaux, etc., les poissons. Et ce sont des animaux qui étaient en vente libre jusqu'à la fin des années 90. Pareil, sur le même principe, on vendait les bébés. Le problème, c'est que dans de bonnes conditions, les animaux grossissent très très vite pour atteindre là plusieurs dizaines de kilos.
Et là aussi, les gens les abandonnent.
Et là, les gens les abandonnent, sauf que ce sont des animaux qui sont très discrets dans la nature. Et on perçoit maintenant les effets de ces lâchers qui remontent à quelques années, puisque les femelles, quand elles sont très grosses, pour pondre, il faut qu'elles sortent des cours d'eau, chercher un endroit. C'est le seul moment où elles sortent de l'eau, et c'est à ce moment-là que les gens les croisent sur les routes, dans les champs ou dans les parcs de loisirs, comme c'est arrivé récemment.
Donc ça veut dire qu'ils croisent des tortues géantes et du coup ils vous appellent en disant j'ai vu une tortue géante, c'est un peu ça.
Oui, absolument. Donc là il faut intervenir, on se déplace et on va chercher ces animaux pour ensuite les placer dans des bassins et les accueillir et les élever le plus correctement possible.
Vous avez plusieurs centaines de tortues aujourd'hui, c'est ça?
Oui, alors pour l'instant on a 300 et quelques tortues, on a une capacité d'accueil de 1500 tortues. Et c'est la première année où vraiment on officialise notre travail d'accueil. Donc il est clair que les années à venir vont être des années clés par rapport à la capacité d'accueil du refuge.
Ça veut dire que vous attendez à ce qu'il y ait d'autres abandons de tortues ?
Tout à fait, oui, il y a beaucoup. On ne peut pas imaginer à quel point il y a de nombreuses tortues en captivité, qu'il s'agisse des tortues terrestres ou aquatiques. Et on est sollicité tous les jours, toutes les semaines, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, en principe. Quoi. Et là, il y a vraiment beaucoup d'appels de gens qui veulent nous placer des animaux.
Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez dire à certaines personnes? Parce que vous êtes passionné de tortues. On peut comprendre d'aimer les tortues et d'en vouloir une chez soi. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui veulent une tortue à la maison?
Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est que avant, on pouvait acheter des tortues très facilement, maintenant, aujourd'hui, dans certaines animaleries, mais il y a une législation qui est très stricte, qui est très dure, et j'approuve cela dans un certain sens, à savoir qu'aujourd'hui, pour détenir une tortue d'Hermann, il faut avoir une autorisation, une déclaration en préfecture, ou alors un certificat de capacité si on veut en faire l'élevage, la reproduction. Donc c'est très lourd, on peut pas acheter des animaux comme ça sur un achat compulsif. Il faut savoir que derrière, administrativement, il faut une déclaration, c'est comme une voiture, on peut pas acheter une voiture sans... Enfin, on peut acheter une voiture, on peut pas rouler en voiture sans permis, mais aujourd'hui, on peut pas élever de tortues sans autorisation.
Ce sont des espèces sauvages, hein. Faut dire aussi que ce sont pas des espèces domestiques, hein.
Ce sont des espèces sauvages qui sont menacées pour la plupart de disparition, qui font l'objet d'un trafic intense. Donc il faut bien faire attention à toutes les annonces que l'on voit sur le net ou autre de gens qui vendent des animaux. Parce que la plupart du temps, ce sont des ventes illégales et vous êtes à l'infraction et à partir de là, verbalisable. Et c'est de lourdes amendes, saisies des animaux et lourdes amendes de la part de l'administration.
Alors pour finir, pour ceux qui aiment les tortues, vous allez peut-être proposer autre chose. C'est justement un parc qui est en projet pour montrer toutes ces tortues, pas les tortues du refuge, mais d'autres tortues aux visiteurs.
Absolument. Décidément, Laetitia, vous êtes très bien informée.
toujours.
Toujours, François.
Ah oui, toujours, toujours.
Confirmer. Et donc, vous avez le refuge des tortues, c'est un refuge qui n'a pas vocation à accueillir le public, sauf quelques jours par an lors de journées portes ouvertes.
Comme ce week-end.
Comme ce week-end, absolument. Et à côté, vous avez le parc animalier qui s'appellera Kélonis, du grec Kéloné, qui veut dire tortue. L'objectif, c'est de présenter quelques espèces, non pas une collection, parce qu'on est contre la vente ou la possession même d'animaux sauvages. Ce seront des animaux qui seront issus ce seront des dons ou des placements d'autres parcs zoologiques, d'animaux nés en captivité. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter la diversité de ces animaux qui seront accueillis dans des enclos, dans des bassins très, très vastes, très importants, justement pour sensibiliser. C'est toujours un prétexte pour sensibiliser les gens sur, sur ces animaux, sur leur devenir, sur les menaces qui pèsent sur eux.
Merci Jérôme.
Merci Jérôme.
Merci. Alors
avec grand plaisir. Voilà. Merci Laetitia, merci François.
Merci.
Voilà, vous êtes responsable donc de refuge des tortues à Bessières, c'est au nord-est de Toulouse. Alors cet après-midi, si vous voulez y amener vos enfants, ce sont les portes ouvertes et vous verrez toutes ces tortues.
Merci beaucoup. Il est 8h moins le quart, Laetitia. On va retrouver notre vidéo LOLCAT dans un instant. Et puis, découvrir cette histoire incroyable qui se déroule à Grignol en Dordogne. On va vous raconter, en tout cas, sachez que comme protagoniste, il y a des grenouilles dans cette histoire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut
vous dire. Et qu'elles chantent peut-être trop fort, trop faux peut-être, je sais pas. Il y a un problème voilà. Avec leur chant.
Exactement. Et des voisins mécontents aussi, visiblement. À tout de suite, c'est RMC. C'est le week-end des experts et c'est les animaux encore pendant un petit quart d'heure.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h46. Le week-end des experts, les animaux. Laetitia Barlerin, nous allons maintenant parler de voisins. Et de grenouilles.
Et de mares.
Et de mares.
Et nous sommes avec Christophe Coïc, qui est directeur de l'association Sistune Nature. Christophe, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Laetitia.
Alors, racontez-nous cette histoire incroyable. Un couple en Dordogne vient d'être condamné par un tribunal et en appel parce qu'il a une mare avec des grenouilles trop bruyantes. C'est incroyable ça.
Ah ben c'est incroyable. Nous, on est alertés, enfin assez régulièrement, par des problèmes d'urbanisation sur concernant le champ des amphibiens, donc la ville qui s'étend de plus en plus sur les zones humides et la campagne. Mais là, c'est une histoire incroyable parce que c'est allé très très loin. Le couple a été devant les tribunaux, le tribunal d'instance de Périgueux, a gagné son procès. Mais le cher voisin a fait appel et il a gagné, lui, au tribunal d'appel de Bordeaux.
Parce qu'il faut savoir que les grenouilles, les crapauds, quand vient la saison des amours, chantent.
Alors
donc ça fait un bruit. C'est vrai que ça fait du bruit. Mais enfin, c'est le bruit de la campagne, quoi. Enfin, c'est... Et là, c'est le voisin qui ne supportait plus ses croassements et qui a signé le couple devant les tribunaux, c'est ça?
Devant les tribunaux, ouais, tout à fait. Bon, alors les amphibiens, c'est le début du printemps, hein. Les premiers chants commencent. C'est des chants très ténus. Ça commence ici avec la grenouille agile ou la grenouille rousse dans le nord. C'est des chants qu'on entend très très peu. Et puis après, ça commence par les rainettes et les grenouilles vertes qui ont un chant un peu plus bruyant. Mais vraiment, c'est le début. Ça annonce le début du printemps, quoi. Donc ce voisin-là ne supporte pas les chants des grenouilles et a signé donc ces personnes au tribunal. Le problème là-dessus, c'est que le voisin fait ce qu'il veut. Hein. S'il n'est pas d'accord, ça peut aller devant les tribunaux. On peut être d'accord ou pas. C'est pas là qu'est le problème. Le problème est sur le jugement de la cour d'appel. C'est-à-dire que la juge de la cour d'appel a condamné donc les propriétaires de la mare à combler la mare.
D'accord.
Il s'avère
Et je crois que s'ils le font pas, ils doivent payer, hein, c'est ça?
Il y a une astreinte par jour, ouais, de 150 euros par jour tant que la mare n'est pas comblée. Donc nous, on arrive sur ces entrefaites à la demande de ces gens qui sont un peu perdus, qui
nous
disent « nous, on n'a pas envie de combler notre mare, voilà, le jugement de la cour d'appel a été rendu, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ils vont en cours de cassation, imaginez-vous la cour de cassation pour des champs de grenouilles.
c'est vrai que là, c'est encore un petit peu... Oui, c'est remarquable, parce que la cour de cassation... Parce que vous êtes déplacé chez ce couple pour faire un inventaire des grenouilles.
Ben c'est là qu'on arrive, c'est-à-dire que derrière la demande de ces gens, on voit le jugement de la cour d'appel, la juge s'est mépris complètement sur le droit de l'environnement, la loi sur l'eau et surtout sur les espèces protégées. Il faut savoir que les amphibiens en France sont tous protégés.
Eh oui.
C'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est une loi de protection date de 1976, donc ça fait quand même un certain temps. Les amphibiens sont protégés parce qu'ils disparaissent avec leur habitat, avec les zones humides.
Et leur habitat est protégé aussi.
Et leur habitat est protégé, c'est-à-dire que quand on comble une mare, on fait de la destruction d'espèces protégées. notamment les amphibiens, et que ça se fait pas comme ça. Donc c'est demander des autorisations de destruction d'espèces protégées, ça passe sur des grands ouvrages, on a les GV, on a les autoroutes, on a des routes, voilà. S'il y a une formule, c'est administratif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment demander l'autorisation, ça passe devant le Conseil national de la protection de la nature, ce n'est pas rien. Donc nous on est arrivés les voir pour faire un inventaire sur voir quelles espèces il y avait sur leur terrain, sur leur propriété. Alors c'est un village extrêmement charmant de Dordogne, sur une colline, des vieilles fermes datant très certainement du Moyen-Âge, qui dominent deux vallées, enfin un endroit idyllique, quoi. Si ce n'est que, on peut être au paradis, mais on peut avoir des voisins qui vous font vivre un peu l'enfer. Et on a cette mare, et on a un endroit vraiment, vraiment idyllique et bucolique. Et on a repéré, en une demi-heure, on a fait un inventaire total, on a repéré quatre espèces, dont deux qui sont protégées non seulement au niveau national, mais au niveau européen. Donc ce couple se retrouve confronté à deux choses. S'ils comblent la mare, ils sont en infraction pour destruction d'espèces protégées. Et s'ils ne la comblent pas, ils sont en infraction parce qu'ils doivent combler suite au jugement de la juge de la cour d'appel qui a une responsabilité dans l'affaire parce qu'elle a complètement négligé, et d'une, le fait que les amphibiens, comme les chevreuils, les sangliers et autres, sont des espèces sauvages, donc de libre circulation, et sauvage, je veux bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça n'appartient à personne.
Parce que on a souvent des procès pour le coq du voisin qui chante trop tôt le matin ou l'âne qui braie toute la journée. Mais là, ce sont des espèces sauvages, quoi. C'est incroyable.
Le coq, le chien qui fait du bruit, l'âne, comme vous dites, ce sont des races domestiques, c'est-à-dire elles ont un propriétaire. Un âne qui divague ou des vaches ou des chevaux, etc., ils appartiennent à quelqu'un. Tout étant de retrouver le propriétaire. Les espèces sauvages, c'est l'inverse, elles n'appartiennent à personne et on ne peut pas les empêcher de... vous ne pouvez pas clôturer votre jardin pour garder le chevreuil qui est en train de manger vos roses ou vos fraises. Ce n'est pas possible, vous êtes en infraction.
Mais ça veut dire, parce qu'en plus, si ça fait jurisprudence, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des tourterelles dans son jardin qui viennent comme ça et qui viennent roucouler parce que le voisin, il n'aime pas entendre les tourterelles, voire le coucou qui vient dans le jardin, c'est incroyable.
C'est le problème, c'est-à-dire que si vous avez un voisin qui, en banlieue parisienne ou autre, déteste les chants d'oiseaux, il peut vous condamner parce qu'il chante sur votre toit. Vous allez démonter votre toit pour empêcher les oiseaux de se poser dessus. C'est complètement fou, cette histoire. Donc derrière, nous, on va rendre le constat à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc à l'État. Qui est chargé de faire appliquer la loi aussi et rendre à l'avocat de ces personnes pour la Cour de cassation. Là, je m'en suis aperçu, c'est-à-dire qu'il n'y a que la Cour de cassation pour casser le jugement de la Cour d'appel.
Mais je crois que le couple est soutenu par une pétition en ligne.
Il y a eu 76 000 signatures sous la pétition en ligne. Et qu'ils sont montés en association si les gens veulent bien envoyer des dons à ces personnes qui sont confrontées, mais à quelque chose de complètement fou. Parce qu'il y a aussi le côté, nous, ça ne nous regarde pas en tant qu'experts, mais ils sont confrontés aussi, ça coûte cher un procès, quoi. Il y en a un troisième qui s'annonce, c'est la Cour de cassation, ça coûte aussi cher. Donc c'est très compliqué, et c'est surtout pour nous au niveau de la protection de la nature, c'est-à-dire que, comme vous dites, s'il y a cette jurisprudence-là, on met l'accent sur le fait que les animaux sont pas sauvages, c'est-à-dire que sur votre jardin, votre propriété, vous êtes responsable de tout ce qui passe sur votre propriété, c'est-à-dire que, comme vous dites, s'il y a des tourterelles ou des pigeons ou des corbeaux ou des pies qui défèquent sur le toit du voisin, par exemple, ou qui chantent ou qui le perturbent, le voisin veut vous condamner. C'est exactement ça.
C'est incroyable.
Ah oui.
C'est une histoire complètement folle, ouais.
Alors, est-ce que le couple a ses chances pour gagner en cassation ?
Moi, je pense qu'ils ont tout à fait les chances parce que le juge, notamment, un procès à cour de cassation, c'est casser le procès. précédente, donc le procès d'appel, c'est-à-dire que la juge a complètement oublié et le côté espèce sauvage et surtout le côté espèce protégée, c'est-à-dire nous on travaille par exemple avec le collège, avec le département de la Gironde pour faire creuser des mares avec les collèges, avec les collégiens, et c'est vachement bien parce que ça permet de faire bosser le prof de maths, le documentaliste, et on s'aperçoit que ça marche, c'est-à-dire que les espèces reviennent, les espèces des zones humides, les amphibiens, des insectes aquatiques reviennent, même en pleine ville. Hein.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si on creuse des mares, si on protège les mares, il y a fréquence grenouille, il y a la journée de protection nationale des mares.
La fête des mares.
La fête des mares. Et on s'aperçoit que tout ce travail-là de protection des mares qui ont un intérêt. En période de sécheresse, ça permet d'arroser son jardin. Ce n'est pas pour rien que nos anciens à la campagne avaient creusé des mares ou faisaient creuser des mares pour abreuver le bétail, pour se servir pour le jardin. C'est important, une mare. Donc derrière, on s'aperçoit que tout ce travail est réduit à néant parce que on peut combler et on fait ce qu'on veut avec la vie sauvage et notamment avec les espèces protégées.
Merci beaucoup Christophe pour cette histoire incroyable.
Voilà, vous êtes directeur de l'association Sistude Nature qui agit pour la préservation de l'environnement, principalement en Aquitaine.
Voilà, si vous voulez, si les auditeurs de RMC veulent le moindre renseignement, c'est sur la page Facebook de l'association Sistude Nature ou sur le site internet.
Merci beaucoup Christophe.
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Merci. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux par notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Et on a trouvé une vidéo qui nous vient des États-Unis. C'est un labrador qui est dans une piscine
en train
et qui
de
commence
nager.
À nager tranquillement. Bon. Voilà. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il a pied. Enfin, qu'il a patte, plus précisément.
Qu'il a patte, oui. Qu'il a coussiné.
Et donc, et voilà.
Et là, il se met debout.
Voilà, il se met debout. Et alors, mais c'est drôle parce que il sait pas trop ce qui lui arrive. Il comprend pas parce qu'il nageait. Puis d'un coup, il se retrouve à avoir pied de ses pattes arrière.
Et il fait du suricate.
Et voilà, il fait du surplace. Il regarde son maître comme ça. C'est vraiment très, très drôle. À retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, on sera là dimanche prochain, bien sûr.
Bon dimanche à tous. Et puis, allez les bleus.
Et allez les bleus,
bien sûr, cet après-midi à 15h.
Voilà. Et dans un instant, après la météo et les infos, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour la suite de ce week-end des experts avec l'automobile. À tout de suite.